L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas Der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Je suis très heureux de recevoir M. Jean Rauoux, professeur honoraire de l'Université de Rennes, pour cette conférence consacrée au XVIIe siècle et à la littérature. Je suis aussi très heureux de remercier et d'accueillir M. Christian Belin, à qui je dois à peu près tout ce que je sais du XVIIe siècle littéraire, et j'avais vraiment à cœur qu'il soit là ce soir. M. Christian Belin, qui est professeur de littérature française du XVIIe siècle à Montpellier III, directeur de l'UFR 1 et membre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Je vous cède tous les deux la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Merci. Alors, c'est un grand honneur pour moi de présenter Jean, parce que c'est pas simplement un collègue, c'est un ami. Jean, pendant longtemps, s'est occupé du XVIIe siècle. Pendant très longtemps même. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le XVIIe siècle, en particulier sur Jean Racine. Un très bel ouvrage qui s'intitule « Jean Racine entre sa carrière, son œuvre et son Dieu », publié en 1992. Il a aussi écrit une très belle histoire de la littérature au XVIIe siècle. C'est l'éditeur de Racine, du théâtre de Racine. C'est l'éditeur de La Rochefoucauld aussi. Et puis il prépare actuellement un grand ouvrage sur l'état du christianisme en général et du catholicisme en particulier en France. Alors ça sera, je pense, un événement. Mais entre-temps, et c'est ce qui nous occupe ce soir, il a écrit une somme. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le XVIIe siècle, une révolution de la condition humaine » paru aux éditions du Seuil en 2002. Et au fond, c'est ce qui va nous occuper. Alors juste quelques mots avant de lui laisser la parole. Alexandre Coiré, le grand historien des sciences, écrivait ceci. Le XVIIe siècle est la plus profonde révolution accomplie ou subie par l'esprit humain. Et nous savons que Heidegger définissait le XVIIe siècle comme l'ère des conceptions du monde. Or Jean Rauoux s'est interrogé sur cette révolution de la condition et de la personnalité humaine au XVIIe siècle. C'est donc une longue histoire qui nous a retracé dans cet ouvrage, la longue histoire d'une émancipation. En se libérant en effet des ordres naturels, communautaires ou idéologiques, l'homme serait parvenu à un nouvel état, il serait devenu, dit Jean, entrepreneur de sa condition. Et c'est dans cet ouvrage, Jean Rauoux s'interroge sur ce qu'il appelle un long siècle antinomique, où se trouverait une inversion, l'inversion d'une attitude autour de, évidemment, de notre état, et quelque chose qui amènerait à ses yeux la civilisation moderne. Alors, en 1623, le poète Théophile de Viau écrivait « Il faut désormais écrire à la moderne. Est-ce que l'homme serait devenu moderne au XVIIe siècle ?» C'est ce que Jean va nous dire ce soir. Voilà, je lui donne la parole.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Christian, de m'avoir présenté et surtout d'avoir résumé d'avance ce que je vais dire en termes précis. Merci.
Je remercie d'abord ceux qui m'ont invité. Je remercie en particulier Régis Penalva et puis le technicien et son collègue qui ont fait tout ce travail que j'étais moi incapable de faire en tant que 17e. Et puis, je voudrais donc vous montrer pourquoi j'ai expliqué cette thèse. On m'a dit, mais le 17e siècle, c'est la stabilité. C'est à la fin du 18e siècle qu'il y a eu une révolution. Oui, mais pour rendre possible la révolution politique de la fin du 18e siècle, la révolution industrielle économique du 19e siècle, il a fallu une longue action des hommes. Et pour que cette action fût entreprise, il a fallu que les hommes aient changé d'attitude, aient inversé leur attitude. Je voudrais donc vous montrer que les motivations qui régissent aujourd'hui nos comportements personnels, notre système économique, notre civilisation, n'existaient guère avant les XVIe et XVIIe siècles, et pourquoi elles se sont affirmées à travers une alternance d'époques positives, mettons, où le moi, l'individu s'est affirmé, par exemple chez Descartes, et d'époques de crise où le moi s'est affirmé aussi, par exemple à l'époque de Montaigne, parce que dans ces époques de crise, les gens, privés de leur base, de leurs structures habituelles, se sont repliés sur leur moi subjectif. Pour tenter d'être clair, je me permettrai de donner un titre à chacune des 11 parties de l'exposé. J'espère que vous ne vous sentirez pas trop infantilisé par ce système. Évidemment, résumer 2 siècles en 1 heure, ça oblige à simplifier, plus que je ne l'ai fait dans le livre en 670 pages. Je vous prie de m'en excuser. Donc, au XVIe et XVIIe siècle, une petite minorité a amorcé une révolution de la condition humaine qui, évidemment, ne s'est pas produite partout en France et a fortiori partout dans le monde à ce moment-là. L'inversion dont je vais parler s'est produite dans les campagnes bretonnes ou lozériennes dans les années 1950 et pas au XVIIe siècle. Et ce sont les conséquences de cette inversion-là que nous vivons aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Mon premier point, l'opposition entre l'attitude des hommes aujourd'hui, l'orientation de notre civilisation aujourd'hui et celle de nos aïeux jusqu'au XVIe et XVIIe siècle. Auparavant, l'orientation principale de la condition humaine était une adhésion et même une soumission à un ordre préexistant, l'ordre établi par Dieu, l'ordre de la nature, l'ordre des traditions, l'ordre des communautés, des fidélités. Par exemple, pour penser, il fallait partir de la Bible, partir d'Hippocrate, partir d'Aristote, partir de principes préexistants. Une autre façon de le dire, dans notre civilisation, le but majeur de l'activité humaine est de produire des quantités de choses afin de produire du profit tout en satisfaisant nos désirs et nos besoins. Or, nos ancêtres, non seulement n'avaient pas tellement les moyens de faire cela, mais ne voulaient pas faire cela. Pour eux, nos désirs étaient suspects, sinon coupable, et le profit était condamnable. Et il ne voulait pas non plus des moyens, des moteurs qui nous permettent d'avoir notre activité aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, le travail productif, l'investissement financier, la consommation galopante ou une science technologique. Non, à l'époque, tout ce qui le pouvait, tous les privilégiés de toutes sortes refusaient le travail matériel qui était réservé aux animaux, aux esclaves et aux autres inférieurs. Et le résultat, c'est que le travail était routinier, répétitif, très peu inventif. Et puis, ce que l'Église a condamné le plus souvent, jusqu'en 1830 pour l'Église catholique, c'est le prêt à intérêt, qui est pourtant absolument nécessaire pour tout investissement productif. Alors évidemment, il existait le prêt à intérêt, et les papes, les évêques, les grandes communautés religieuses prêtaient et empruntaient beaucoup à des taux usuraires. Mais c'était quand même condamné. Normalement, vous alliez en prison, parce que l'État, jusqu'en 1789, l'interdisait, et après, en enfer. Normalement. Aujourd'hui, l'empressement de la plupart des gens est de changer de voiture, d'ordinateur, de portable, de tout et de tout. Hein, et mon devoir civique est de consommer le plus possible afin que ça produise le plus possible et que le PIB, la croissance revienne. Mais à l'époque, les gens étaient sobres, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais aussi parce que la pensée enseignait la sobriété. Épicure, qu'on accuse d'épicurisme, distinguait trois types de besoins: les besoins naturels et nécessaires, manger, pas trop, boire, de l'eau, les besoins naturels et non nécessaires, faire l'amour, bon, c'est pas nécessaire, bien que ce soit naturel. Et surtout, les quantités de besoins qui ne sont ni naturels ni nécessaires et auxquels nous consacrons le plus clair de notre existence. Autre chose encore, aujourd'hui, la science a pour but de s'appliquer dans une technologie productive qui exploite les ressources naturelles. Jadis, la science était principalement contemplative. Elle cherchait à comprendre, par exemple, le système astronomique pour admirer et pas pour transformer, pas pour exploiter. Aujourd'hui, l'utilité, la rentabilité est un critère décisif de la valeur de toute chose et même de la valeur des personnes. Les anciens philosophes méprisaient, détestaient ce critère-là. Dans la tradition philosophique, Cicéron en particulier en a beaucoup parlé, l'opposition est systématique entre l'utilité et l'honnêteté, c'est-à-dire en français moderne, l'honorabilité. Montaigne, qui pourtant n'est pas un vieux réac, n'est pas Montaigne, consacre l'un de ses chapitres à l'utile et l'honnête, et il oppose radicalement les deux choses. Il dit que l'utilité est, je cite les mots, abjecte, vicieuse, honteuse, et il rapproche la notion d'utilité des mots comme ignominie et prostitution de conscience. Aujourd'hui, le mieux, c'est la dernière invention et la dernière mode. Et évidemment, ce sont les jeunes qui sont en avance, puisque c'est eux qui... Et l'avenir est ce qui nous pousse. Jadis, au contraire, la vérité fondamentale était chez les grands anciens, la Bible, Aristote, Hippocrate, etc. La meilleure manière était celle qui était conforme à la meilleure tradition. On vénérait les anciens et effectivement, comme rien ne bougeait, les anciens, ayant plus d'expérience, avaient plus de savoir que les jeunes. Enfin, nos anciens... nos aïeux ne s'investissaient guère dans l'activité matérielle et la vie temporelle qui pour eux n'était pas prioritaire. Pour eux, l'essentiel, c'était l'au-delà. Alors, dans ces conditions, non, ça ne pouvait pas être la même chose qu'aujourd'hui. Je redis la même chose, je montre la même opposition d'une autre façon. La modernité que nous connaissons est le produit de personnes qui sont d'inventifs techniciens, entrepreneurs et transformateurs en tout domaine. Or, les hommes d'avant étaient très peu de cette catégorie-là. L'entrepreneur ne commence à émerger qu'au XVIe siècle. Et les gens qui existaient antérieurement, c'était non pas des entrepreneurs de l'avenir, mais des héritiers fidèles au passé et conservateurs de tradition. Par exemple, le clergé n'était pas là et n'est pas là pour inventer. Il est là pour surtout pas. Il reçoit sa vérité et sa mission de Dieu, de la Bible, de la tradition. Il y avait des nobles. Ce qui leur donnait leur noblesse, c'était leur héritage, le nom, la lignée d'ancêtres, le patrimoine dont ils avaient hérité, la place sociale dont ils avaient hérité. Il y avait des paysans, le paysan de l'époque, il ne fait pas d'OGM, il ne transforme pas la nature. Il aide les processus naturels, il est, par des procédés ancestraux, il est serviteur de la nature par des moyens de tradition. Nous, nous construisons notre vie dans la mesure du possible. Nous choisissons plus ou moins une résidence, une profession, une religion ou rien, un conjoint ou pas, etc. Nos aïeux héritaient de leur vie et ne choisissaient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils mouraient dans l'endroit et dans la profession où ils étaient nés et, entre-temps, rien n'avait changé dans leur vie. Rien n'avait été transformé frénétiquement, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils aspiraient sans doute à satisfaire leurs désirs, oui, mais les moyens qu'ils avaient étaient réduits et leur entourage et l'idéologie de l'époque s'y opposaient. Il y avait certes quand même deux catégories de personnes dont la conduite et la pensée entreprenante étaient déjà les nôtres. D'une part, les commerçants. Cela ne regardait pas le ciel, mais le monde matériel. Ils cherchaient le profit par une efficacité utilitaire. Mais c'était des anti-modèles. Ils étaient fortement réprouvés. Leur activité, dit Platon, porte des habitudes qui rendent l'âme totalement impudente et basse. Le décret, ce qu'on appelle le décret de Gratien, c'est-à-dire vers 1140, la première mise en forme du droit canon, du droit de l'Église, dit « Un négociant ne peut jamais plaire à Dieu ou difficilement ». Et Thomas d'Aquin, esprit ouvert pour l'époque s'il en est, a cette même position. Et encore, en 1601, l'AFMAS, qui est l'anti-Sully. Sully, c'est labourage, pâturage, les deux mamelles de la France, c'est l'économie traditionnelle. Le baron de l'AFMAS, qui est également conseiller d'Henri IV, voudrait, lui, développer l'industrie, le commerce, parce qu'il a l'œil sur la Hollande, un pays où il n'y avait rien, absolument rien, et qui, maintenant, est en train de devenir la première puissance de l'Europe, parce que c'est une place commerciale et une place financière, étant donné les ports et les fleuves qui sont derrière. Et encore, un commerçant nantais, Jean Éon, en 1647, parle de cette très mauvaise idée du commerce des Français qu'il considère comme le propre des âmes basses. Alors, voyez, oui, il y en avait des commerçants, pas extrêmement nombreux, mais ils étaient très mal vus, pourquoi ? Parce que un commerçant, au lieu de laisser tout en place, il va chercher des choses là-bas et il les transporte ici, et une fois arrivé ici, il vous trompe sur la qualité, sur la quantité et sur le prix, et puis il essaie de vous vendre tout cela pour corrompre les mœurs et les âmes. Voilà la façon dont il percevait les choses. Il y en avait qui étaient encore plus mal vus que les autres, c'était les commerçants d'argent. Dans les sociétés traditionnelles, en général, le commerce de l'argent, comme le prêt à intérêt, était interdit et il était donc reporté sur des parias, des gens, les juifs, pour ce qui est, pas seulement, mais en bonne partie pour ce qui est de l'Europe. Vous voyez ce que ça signifiait. Bien sûr, les autres le pratiquaient aussi en douce, à peine. Une deuxième catégorie de gens qui nous ressemblent, c'était des hommes politiques. Oui, j'ai vu ça chez Thucydide ou chez Tacite. Mais Thucydide et Tacite n'écrivent quand même pas les modèles d'hommes politiques. Et autant, oui, ça se faisait, Louis XI, il y en a bien d'autres, autant ça se faisait, autant l'idéologie s'y opposait. Depuis Platon jusqu'à Érasme et Budé, la politique doit consister à construire l'ordre social le plus apte à conduire les gens à la vertu et, en monde chrétien, au salut. Voilà le but moral du politique. C'était pas consommer plus pour... Bon. Et je présente enfin la même thèse sous une troisième forme, rapidement. Pour nous, le bonheur, c'est la satisfaction de nos désirs par la domination, la possession d'un tas de choses et même de quelques personnes tant qu'à faire. Pour les anciens, pour les sages de l'époque, le bonheur, c'est la soumission et à la limite l'extinction des désirs. Désir, dit Épicure, Épictète. Désir que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Le bonheur, pour eux, consistait à coïncider avec la place, tu seras heureux si tu coïncides avec la place que l'ordre divin, naturel et social a défini pour toi. Et vous avez certainement connu dans les campagnes environnantes des gens dont la place était définie dès leur naissance, des familles où il y avait, comme chez ma grand-mère, ils étaient 5, il y en a une qui s'est mariée, les 4 autres sont restés là pour être des domestiques non payés tout au long de leur vie. Le dimanche, on leur donnait quelques sous pour acheter leur tabac à chiquer. Alors, il y avait quelques individus qui essayaient. Oui, ça donnait Roméo et Juliette, Tristan et Iseute, c'est-à-dire que l'issue en était tragique. Et pendant longtemps encore, au XVIIe siècle encore, les psychologues, les moralistes disent « Surtout, ne vous mariez pas par amour, par exemple, parce que ça tournera mal. Hein » Non, pas le choix personnel. Deuxième point de mon exposé, comment ça a commencé à changer? Comment les grandes découvertes, la Renaissance, ont permis une première affirmation de la confiance de l'homme en ses capacités? Je prends mon réveil. À l'origine du changement dont je parle, il y a deux choses. D'une part, une soudaine et importante augmentation des moyens dont disposaient les hommes à cause de ce qu'on appelle gentiment les grandes découvertes. Les Indiens ont été ravis d'être découverts à cause, mettons, de l'exploitation des nouveaux mondes. Ça a donné des meilleurs moyens et une grande confiance et posé des problèmes qu'il a fallu techniquement résoudre. Et ça a fait que, dès le XVIe siècle, Séville, Londres, Amsterdam vivent à l'heure de la mondialisation économique et financière. Et deuxièmement, une deuxième chose, c'est une meilleure connaissance de la culture et de la pensée grecque et latine qui ont donné aussi les moyens intellectuels, cette fois, de cette affirmation. Une confiance, donc, des hommes en leur capacité. Ils ont été, à ce moment-là, dit Pelletier du Mans, animés d'un vouloir invincible et d'un désir insatiable. En d'autres termes, une puissance gargantuesque au service d'une avidité pantagruélique. D'où une inversion d'attitude. Jusque-là, ils étaient soumis à la nature. Eh bien, dès cette époque, un penseur révolutionnaire opère l'inversion épistémologique dont je parle. C'est Machiavel, l'horrible Machiavel. Horrible parce qu'il a renversé la tradition. Et contrairement à ce qu'on a tendance à croire, il ne l'a pas fait simplement dans le domaine politique. Non, c'est un philosophe fondamental. Que dit-il? Il dit, vous considérez, selon la tradition, que le critère de validité d'une pensée ou d'une action, c'est sa conformité aux principes là-haut, moraux, métaphysiques, religieux, etc. Eh bien non. Le critère de validité d'une action ou d'une pensée, c'est à ses effets qu'on doit la mesurer. C'est là qu'on reconnaît une pensée vraie. une action juste. Voyez, l'inversion, la vérité effective, comme il dit, remplace la vérité dogmatique. La vérité activement produite et vérifiée par des hommes remplace la vérité passivement, religieusement reçue de Dieu, de la tradition, etc. Et la science, du coup, n'est plus contemplative, mais expérimentale, vérificative. Et un certain réalisme remplace un certain idéalisme. D'autant plus qu'il y a aussi les rois, les chefs, etc., qui disent « Ah, mais moi, j'ai des problèmes pour la traversée de l'Atlantique. Il me faut des ingénieurs, il me faut des techniciens, il me faut pas des savants qui regardent, des savants qui résolvent les problèmes. » Troisième point, la ruine de ce premier élan, mais cette ruine permet, sous une autre forme, la continuité de l'affirmation du moi. Machiavel écrit Le Prince en 1513, c'est-à-dire très en avance, hein, il est rejeté comme diabolique, et peu après, la Renaissance aboutit à une catastrophe, puisque les entreprenants penseurs de l'époque ont entrepris aussi de tout améliorer et de tout réformer, y compris la religion, ce qui a conduit à 33 années, près en France, de ruineuses guerres civiles, une catastrophe. Tout croule autour de nous, dit Montaigne. Mais quand tout croule autour de moi, la seule chose qui me reste, c'est moi, précisément. Ce moi, qui était rempli de force et de confiance pendant la Renaissance, eh bien, il reste le pilier pendant la crise sous une forme différente. Et pour la première fois, en 1581, apparaît le substantif, le moi. Et Montaigne dit « Je suis moi-même la matière de mon livre, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même à moi pour argument et pour sujet. » De la même façon, de 1593 à 1608 à peu près, la vie religieuse est caractérisée par un nombre impressionnant de haute qualité de mystiques, c'est-à-dire de gens qui recherchent une relation directe, personnelle, subjective à Dieu, et non pas en passant par l'institution. Et de la même façon aussi, la littérature baroque de l'époque est animée d'une anxieuse subjectivité exacerbée. Alors, vous voyez, le moi, tantôt par la maîtrise, tantôt par le repli fileux, continue à s'affirmer. Quatrième point, la maîtrise politique d'ici-bas prend le pas sur la soumission religieuse. La religion était jusque-là la base, le cadre de toute pensée, de toute activité. Mais la réforme et les guerres qui ont suivi l'ont cassée en deux et discréditée à bien des égards. Et la grande vaincue des guerres de religion, c'est la religion. Et le grand vainqueur, c'est la politique. C'est-à-dire que désormais, les intérêts temporels vont diriger les États et non plus les valeurs transcendantes. C'est la victoire posthume de Machiavel et de la raison d'État qui transgresse au besoin l'égalité, morale, religion et tout ce que vous voudrez. Ceux qui mettent fin aux guerres de religion, ce sont des gens que les contemporains appellent les politiques, des gens qui donne priorité à l'unité nationale et non pas à une réunification religieuse. L'édit de Nantes et encore plus nettement dans l'Empire, la paix d'Augsbourg en 1555, qui se fonde sur le principe « cuius regio, eius religio », c'est-à-dire « vous êtes de telle région, donc vous êtes de telle religion ». En clair, votre prince, votre roi est de telle religion, donc vous êtes tous de cette religion-là. Voilà la domination du politique. Et qu'est-ce que c'est que le politique ? Le politique, comme l'économique, comme le technique, ce sont les moyens par lesquels l'homme organise le monde où il vit, et non pas comme la religion et la sagesse subit un ordre antérieur ou un ordre venant d'ailleurs. Cinquième point, justement, le remplacement de l'ordre reçu de Dieu et de la nature et de la tradition par ce nouvel ordre économique, scientifique et politique créé par des hommes redevenus fiers de leur vigueur. Au début du XVIIe siècle, l'activité des hommes occidentaux, pas des ruraux qui restent l'écrasante majorité, il est vrai, n'est plus dominée par religion et sagesse, par tradition, etc., mais par, je le disais, l'économique, la technique, la politique, par des activités où l'homme transforme, organise à son profit. Montaigne, qui écrit de 1572 à 1592, est encore un philosophe de la soumission à l'ordre. Il répète « il faut suivre nature ». Il intitule l'un de ses chapitres « Philosopher, c'est apprendre à mourir », une vieille idée platonicienne, stoïcienne, etc. Eh bien, Descartes, ce ne sera pas du tout cela. Descartes dit « bon, au lieu des philosophies spéculatives qui ne produisent aucun effet », ça vous rappelle quelque chose, le mot « effet » de Machiavel, hein, « moi, je vous propose une philosophie utile, pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air et de tous les autres corps, à l'imitation de nos artisans, nous pourrions les employer à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme, quand même pas tout à fait, hein, c'est Dieu, comme maître et possesseur de la nature. » Ça y est, c'est parti. C'est le monde moderne qui commence avec cette idée-là. Et il dit ailleurs que, pour lui, la métaphysique reste la racine de la philosophie. Mais la physique en est le tronc. Et les branches, c'est-à-dire là où on cueille les fruits, là où c'est l'utile, ce sont la médecine, la mécanique et la morale, les choses qui servent à gérer l'existence. Et comme chez Machiavel, il fait donc une inversion de la rationalité. Jusque-là, c'était quoi la raison ? La raison, c'était l'inscription en moi de l'ordre divin, naturel, etc. Maintenant, c'est moi qui organise l'ordre. Avant, j'habitais chez maman et il y avait l'ordre. Maintenant, c'est moi qui organise mon bordel. Et donc, il me faut de la méthode pour organiser. C'est pour ça qu'il a écrit le discours de la méthode. Je faisais lire le discours de la méthode à mes étudiants et j'ai arrêté parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait rien dedans. Et non, pour nous, il n'y a rien dedans. Mais à l'époque, ça a été une inversion radicale et extrêmement importante. Or, Descartes n'est pas le seul. Au même moment, Galilée, d'une autre façon, fait la même révolution. En Angleterre, Bacon fait la même révolution. Et Bacon va jusqu'à dire « la vérité et l'utilité ne sont qu'une seule et même chose ». Scandale aux yeux de la tradition. Et pendant que Descartes construit le nouvel ordre rationnel, Richelieu impose un nouvel ordre politique. Et il dit que cela requiert une vertu mâle et une fermeté inébranlable, c'est-à-dire la même énergie. Et à côté, il y a ceux qui font la réforme catholique, et aussi bien sûr la réforme protestante, et eux aussi déploient une énergie à ce moment-là. En même temps, ils disent que l'homme ne vaut rien, et ils travaillent avec l'énergie humaine. Ils se qualifient eux-mêmes de temps en temps d'athlètes du Christ. Si vous demandez à François de Sales, Descartes, Corneille, Richelieu et leurs contemporains quel est et surtout quel doit être le principe des pensées, des sentiments et des activités des hommes, ils répondent la générosité. Pas du tout au sens actuel. Pas du tout au sens actuel. C'est quoi la générosité ? C'est la vigueur génétique. Au début, c'est la qualité du noble. Lui seul a été généré, engendré par une race, par un sang qui lui donne cette vigueur physique et morale. Mais dans les années 1630, où on est en train de tout reconstruire, après un tiers de siècle de guerre civile et une vingtaine d'années de désordre, on reconstruit tout et tout le monde est plein d'énergie et tout le monde se dit généreux. Donc vraiment, oui, c'est le principe. Sixième point, la soudaine dénonciation de l'égoïsme et des motivations intéressées. Si, à partir de 1650, vous posez la même question, quel est le principe des pensées, des sentiments et des activités des hommes aux philosophes, psychologues, moralistes et littérateurs, ils ne disent plus du tout cela, plus du tout. Dans les Maximes de La Rochefoucauld, le mot « générosité » apparaît une fois, dans les Pensées de Pascal, zéro. Or, ce sont deux grands textes d'analyse des hommes et des comportements humains. Pour expliquer, eux, ils ont un autre mot, l'amour-propre. L'amour-propre, pour nous, ça a un sens un petit peu positif. C'est le sens de ma dignité qui fait que je fais comme ça quand on m'injurie. Non, 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 ça n'a pas du tout ce sens-là. C'est quelque chose de négatif à l'époque. L'amour-propre, c'est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Oui, eh ben je suis paumé, là. On va chercher autre chose. On remonte et puis je laissez là et puis je lis mon texte. L'amour propre, c'est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Voilà ce que dit La Rochefoucauld et il dit l'intérêt est l'âme de l'amour propre. Et Pascal dit l'amour propre est de n'aimer que soi. Si bien que chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Voilà ce dont il s'agit. Et voici la première phrase des Maximes de La Rochefoucauld. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger. Voilà la nouvelle conception de l'homme. À cette époque, s'affirme le sens moderne du mot « intérêt » comme recherche de son avantage. Auparavant, ça n'avait pas tellement ce sens-là. Et il devient beaucoup plus fréquent. Dans 10 pièces de théâtre des années 1630, j'en ai revenu 13 exemples. Dans 10 pièces de théâtre des années 1640, j'en ai trouvé 101 exemples. 13, 101. Et le mot « intéressé » jusque-là signifiait « lésé ». Comme dans « dommages et intérêts », si vous voulez. Et il prend le sens inverse, non plus celui qui subit un préjudice, lésé, mais celui qui trouve son avantage dans une affaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer cette soudaine inversion de la conception de l'homme? Il s'est passé trois ruptures dans une société où, jusque-là, comme je le disais tout à l'heure, le dynamisme des scientifiques, des politiques et des religieux allait de pair. Premièrement, la condamnation de Galilée en 1633, qui est une condamnation de l'ensemble de la nouvelle science, parce que les esprits religieux se rendent compte que la nouvelle science est une entreprise prométhéenne d'émancipation de la créature, donc subversive par rapport à la tradition religieuse. Non seulement elle contredit la Bible, mais elle s'oppose à l'esprit de soumission nécessaire dans la créature face au créateur. C'est le désir de savoir qui a perdu Adam, dit Saint-Cyran, le maître spirituel de Port-Royal. Seul importe l'effet pour se rendre parfaitement chrétien, à quoi la science ne sert de guère, y nuisant plutôt. Au contraire, l'obéissance et la soumission d'esprit y sert beaucoup. Voilà une rupture. Deuxième rupture, la rupture entre les religieux et les politiques. En 1618 recommence la guerre européenne entre catholiques et protestants. Il y a d'un côté le roi d'Espagne et l'empereur d'Autriche et d'Allemagne. Ils sont de loin les plus forts. Ils vont écraser les protestants. Ils rêvent d'effacer l'hérésie de la face de l'Europe. Et que fait le roi très chrétien, c'est son titre, hein, le roi très chrétien, Louis XIII, et son cardinal, ministre Richelieu? Eh bien, au lieu de soutenir l'effort des catholiques pour éliminer l'hérésie, ils soutiennent financièrement et diplomatiquement les princes protestants. Et comme ça ne suffit pas, en 1635, ils déclarent la guerre au roi catholique, c'est le titre du roi d'Espagne. Ça a été un scandale absolu pour les gens du Parti dévot. Alors, bon, dès 1630, le chef du Parti dévot, qui était ministre de Finances, Richelieu, l'a mis en tôle. Et puis en 1632, il a coupé la tête de son frère, le maréchal de Marillac. Et en 1638, il a jeté Saint-Cyran en prison. Voilà. Évidemment, ils ne pouvaient pas être d'accord, et Saint-Cyran, encore lui, écrit « Le vrai ecclésiastique n'a point de plus grand ennemi qu'un homme politique », c'est-à-dire un politicien, hein, quelqu'un qui cherche les intérêts temporels. Conséquence de ces ruptures, évidemment, jusque-là, les scientifiques et les politiques pouvaient dire « je m'affirme, mais c'est pas pour moi, c'est par dévouement à la communauté hein ». Exemple, Arnaud d'Andilly, le frère aîné du grand Arnaud, qui écrit « je n'ai jamais eu aucune ambition, j'aspirais à des choses grandes, glorieuses à l'État, qui peuvent procurer la félicité des peuples, sans qu'il m'ait été possible d'envisager en tout cela mes intérêts particuliers ». Et c'était vrai, c'est-à-dire que Rodrigue Horace, par exemple, se sacrifie pour l'intérêt commun. C'est comme cela qu'il s'affirme, s'affirmer dans le sacrifice. Ah ben non, maintenant ça va être terminé. Et voici justement deux confirmations de ce revirement dont je parle. D'une part, celui de Corneille, jusqu'en 1643, il a exalté le dévouement personnel, de gens qui devenaient des héros en sacrifiant leur intérêt au service d'un État salutaire, eh bien le Cid, Horace, Cinna, à partir de 1643, il change brusquement et radicalement pour dénoncer des souverains médiocres et odieusement machiavéliens dans Polyeucte, Pompée, Rodogune et toute la suite. L'héroïsme n'est plus le dévouement à l'État salutaire, mais la résistance contre les souverains tyranniques, Rodogune, Nicomède, Suréna. Un souverain avisé, disent les conseillers du monarque dans Pompée, doit préférer le crime qui lui sert à la vertu qui le perd. Ça, c'est du vrai Machiavel, du bas Machiavel, pas la pensée haute dont je parlais tout à l'heure. Deuxième témoignage, celui d'un des maîtres à penser de l'époque, Gaise de Balzac. « Aujourd'hui, écrit-il, les gens préfèrent le profit à la gloire. Ce malheureux intérêt qui devrait n'être connu que des banquiers de Gênes et d'Amsterdam est maintenant le dieu de la cour. » 1644, le même moment que le tournant cornélien. Septième point, le triomphe de l'égocentrisme intéressé. Or, ces motivations intéressées dont je parle vont être accentuées par la fronde et ses conséquences, par cette guerre civile, parce que la fronde est une rébellion de gens qui n'ont pas de projet pour la communauté. Leur seule motivation, chez Condé, et encore plus chez le cardinal de Retz, c'est l'ambition personnelle. Et en face, Mazarin, c'est un grand homme d'État, mais alors un parfait machiavélien, un vrai filou. On voyait, écrit Saint-Évremond, on voyait régner un esprit d'intérêt universel. Il n'y avait plus que ça, vraiment. Et dans la déstructuration provoquée par la guerre civile, dans cette ruine des valeurs, évidemment, chacun se replie sur soi-même, dans une flambée d'avidité de bonheur. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but, c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre, Pascal. Caractéristique de ce moment-là. De plus, la fronde aboutit à la défaite de ceux qui dominaient jusque-là, c'est-à-dire les nobles d'épée et de robe, mais elle achève de ruiner l'État, parce que l'État, il est en guerre étrangère depuis 18 ans, et ça va durer encore 6 autres années, et maintenant, le voilà avec 5 années de guerre civile. Alors, les véritables vainqueurs, c'est ceux qui prêtent de l'argent à l'État, les financiers, les spéculateurs. Et si les grandes familles, les Condé, etc., continuent à tenir le haut du pavé, c'est aussi par la finance et non plus par les moyens d'avant. Et on prête à l'État, c'est-à-dire que l'État, à l'époque, il y a une bonne partie des impôts qu'il ne relève pas lui-même. Il dit, bon ben voilà, sur le Languedoc, là, 100 000 euros et un fermier général à qui on va affermer les choses, dit 100 000 euros, je vous en donne 75 000. Bon, d'accord. Et après, je récupère les 100 000 avec l'appui de la force publique au besoin. Vous voyez comment c'était rentable. Et d'ailleurs, les financiers, ils ne sont pas seulement les vainqueurs discrets, ils sont à la tête de l'État. Mazarin, Particelli d'Emery, Fouquet, Colbert. Colbert qui a réussi à faire croire à tout le monde pendant 3 siècles qu'il s'était dévoué à l'intérêt général est le représentant du lobby le plus important de l'époque. Et puis, dans la seconde moitié du siècle, quels vont être les lieux où vont s'investir les gens, les lieux en vogue ? La cour, le salon. Quelle est la motivation d'un courtisan et d'un homme de salon ? De plaire, de satisfaire son intérêt, d'acquérir la faveur et les faveurs aussi. Alors quelle est sa conduite ? Une stratégie intrigante. Voilà l'intérêt en marche. Alors la générosité dans tout ça, outre que le terme ne s'emploie plus guère, ah ben justement, comme règne le fric, la générosité prend le sens moderne. Et comme il y a un peu une réaction religieuse et morale, il prend non seulement le sens financier, mais également le sens altruiste. À cette époque-là, si bien qu'il y a des témoignages, je n'ai pas le temps de citer, qu'il y a des gens qui, y compris le secrétaire de l'Académie française, qui ne comprennent plus le sens de généreux. Ils disent « Ah, ça devait avoir ce sens, mais nous ne l'employons que pour désigner les gens qui... » Et je vous prends un exemple, c'est celui de Corneille. Corneille n'est pas seulement un dramaturge héroïque, c'est un homme d'affaires avisé qui savait vendre trois fois sa pièce. D'abord, il la vendait à une troupe de comédiens, parce qu'à l'époque, on jouait d'abord, on imprimait ensuite. Puis après, il la vend à un libraire-éditeur. Et puis après, au même moment, pour la publier, il met une dédicace, pas à n'importe qui, à quelqu'un de bien placé, qui va bien le protéger et lui donner quelques sous, quand même. Alors, il dédie le Cid à la nièce chérie de Richelieu, et puis Horace à Richelieu lui-même, et puis Sina, Richelieu vient de mourir. Mazarin, faut pas compter sur ses sous, vraiment. Alors, il dédie Sina à un parvenu nouveau richissime, Monsieur de Montauron. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans la dédicace, Auguste était tout généreux. Parce que, évidemment, dans le texte, il emploie générosité au sens traditionnel pour ses héros. Et sa générosité n'a jamais paru avec tant d'éclat que dans les effets de sa clémence, Sina ou la clémence d'Auguste, et de sa libéralité. Cela étant, à qui pourrais-je plus justement donner le portrait de l'une de ses héroïques vertus qu'à celui qui possède l'autre en un si haut degré ? Cette générosité qui est l'âme de votre âme prend plaisir à s'étendre sur les gens de lettres. Et voilà, Monsieur de Montauron a échangé l'honneur contre l'argent grâce à une escroquerie sémantique commise par Monsieur de Corneille. Huitième point, la dénonciation de l'avidité intéressée chez les auteurs des années 1660-1680. Nos auteurs classiques de cette époque-là ont tous fondamentalement la même vision de l'homme et du monde. Intérêt, Dieu du monde et de la cour, dit, pareil, tout marche par cabale et par pur intérêt. C'est Philinte, le bien brave, le gentil, qui dit ça. Alceste pense que c'est encore pire. Et Bossuet, intérêt, Dieu du monde et de la cour. La Fontaine, fureur d'accumuler, te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage. Rien à l'homme ne suffit, il va toujours s'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire, etc. Si vous prenez, et évidemment dans ce combat, la raison du plus fort est toujours la meilleure, si vous prenez les personnages de Molière, vous mettez de côté les personnages a contrario, c'est-à-dire les sages, les gentils amoureux, les servantes dévouées, ça c'est pas l'humanité qu'il constate, c'est l'humanité qu'il y oppose pour le contraste dramatique. Tous les autres personnages de Molière ont pour ressort l'une des deux formes d'égocentrisme intéressé, ou bien un narcissisme spontané qui va depuis la sotte vanité des marquis, des précieuses, des poètes, des femmes savantes, jusqu'au solipsisme monomaniaque d'Arnolphe, Harpagon, Jourdain, Argan et même Alceste, ou bien une fourberie profiteuse, celle de Tartuffe, Célimène, Don Juan, Arsinoé, des serviteurs et médecins escrocs, des entremetteuses, des chevaliers d'industrie. Le thème majeur de la littérature de cette époque est l'amour. Or, dit La Rochefoucauld, il n'y a point de passion où l'amour de soi règne si puissamment que dans l'amour, qui est une passion de régner sur autrui. Dans Zaïde, Madame de Lafayette parle d'un certain Alamir qui ne connaît que l'envie de surmonter les difficultés. Si bien que, sitôt qu'il était aimé, comme il n'avait plus rien à désirer, il ne songeait qu'à rompre et à se faire aimer d'une autre. Et dans La Princesse de Clèves, il n'y a que des intrigants de l'ambition ou de la galanterie, à l'exception, il est vrai, de la protagoniste, de son mari et de sa mère. Oui, mais ces trois-là vont mourir. Ils ne pourront pas survivre dans ce monde-là. D'ailleurs, Monsieur de Clèves, c'est vrai, c'était un homme exceptionnel. Il s'était marié et il avait continué à aimer sa femme, même après son mariage. Ça, c'était quelque chose, vraiment. Et oui, mais on nous donne l'explication. Il ne laissa pas d'être son amant parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession. C'est bien dit, hein ? Ça signifie que, bon, il pouvait coucher avec, mais il ne réussissait pas à se faire aimer d'elle, et comme le désir est désir du désir de l'autre, eh bien, il continuait à l'aimer. Voilà, quelle piètre raison. Je vous prends deux exemples chez Racine. Pyrrhus aime Andromaque. Pourquoi est-ce que Pyrrhus aime Andromaque ? Pour le comprendre, il faut voir, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui existe là, et on dit l'amour le pousse. Où est-ce qu'il est, l'amour qui le pousse ? L'amour est un rapport, et pour le comprendre, il faut comprendre quel est le rapport entre les deux personnes, c'est-à-dire quelle est la nature, le statut de chacune d'elles. Qui est Pyrrhus ? Pyrrhus était le plus beau, le plus grand des héros. « Avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix, souffrez que j'ose ici me vanter de leur choix, et qu'à vos yeux, Seigneur, je montre quelque joie de voir le fils d'Achille et le vainqueur de Troie. » Rien de plus beau. Et oui, mais ça, c'était vrai à l'époque du Cid, hein, c'est-à-dire avant. 30 ans avant Andromaque. En termes du XXe siècle, c'était vrai en 1914. Maintenant, Andromaque, Hermione, Oreste et sa propre conscience disent à Pyrrhus, « Tu sais, les exploits qui ont fait de toi un héros n'étaient rien d'autre que des crimes. » Et donc, Pyrrhus est un héros déchu. Et par conséquent, ce que veut Pyrrhus, c'est continuer au moins à faire croire aux autres qu'il est encore un héros irrésistible. Alors s'il pouvait épouser Andromaque malgré elle, malgré Hermione, malgré Hector, encore lui, malgré tous les Grecs qui ont envoyé exprès un ambassadeur pour empêcher ce mariage, alors là, oui, il serait un héros et il est prêt à être fusillé à l'hôtel s'il réussit ce coup-là. Et voici comment Oreste raconte justement le mariage. La cérémonie a déjà commencé. Oreste arrive, l'ambassadeur des Grecs, avec ses Grecs. Pyrrhus m'a reconnu, mais sans changer de face. Il semblait que ma vue excitât son audace, que tous les Grecs, bravés en leur ambassadeur, dussent de son hymen relever la splendeur. Le défi qu'il a fait là, hein, triomphal. Ça doit être marqué quelque part. Voilà. Et puis, dans Phèdre. Dans Phèdre, il y a une gentille... Il y a Phèdre, évidemment. Il y a une gentille petite qui s'appelle Arissi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette gentille petite ? Eh bien, elle dit que... elle dit qu'elle est éprise d'Hippolyte. Elle aime Hippolyte. Et pourquoi elle l'aime ? Oh, pas à cause de sa beauté, pas, oh non. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux. Car de faire fléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un joug qui lui plaît vainement mutiné, c'est là ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite. Waouh! Eh bien, vous voyez, oui, où on en est. Et la solution va être, neuvième point, la solution du libéralisme. Ainsi, donc, les écrivains français constatent que le désir, l'égoïsme, l'intérêt, l'ambition dominatrice, bref, l'amour de soi-même et de toute chose pour soi, est le principe. Le seul principe de la conduite des hommes, et que ça conduit à être tyran des autres et finalement à tellement s'enfler comme la grenouille qu'on finit par se suicider soi-même. Il le déplore, hein, ils sont désolés de ça. Mais pendant que nos écrivains français se désolent, d'autres se réjouissent de cette évolution. Hobbes, l'anglais, Spinoza, le grand philosophe européen de l'époque, le hollandais. Spinoza écrit par exemple « Le désir est l'essence même de l'homme ». Et Hobbes, je pose en premier lieu comme inclination générale de toute l'humanité le désir perpétuel et incessant d'acquérir la puissance et de l'accroître. Le succès continuel dans l'obtention de ces choses dont le désir reparaît sans cesse, c'est ce qu'on appelle félicité. Félicité, moi je croyais qu'on ne pouvait utiliser ce terme qu'au paradis, félicité. Pourquoi, sur le même constat, des avis radicalement contraires entre ces penseurs-là et ceux de France? Eh bien, parce que l'anglais et le hollandais vivent dans une société dominée par l'industrie, le commerce, la finance. Et dans ces sociétés-là, le désir, l'intérêt, suscite une activité productive, et d'autant plus productive qu'elle est concurrentielle, ce qui excite le désir. Tandis que les écrivains français méprisent l'activité industrielle et commerciale, c'est pas ça qu'ils regardent. D'abord, ça existe beaucoup moins en France, malgré les efforts de Colbert, et c'est pas ça qu'ils regardent. Ils ont les rivets sur la cour, sur les salons. Dans la cour, au salon, le désir ne fait pas une activité productive, mais des intrigues prédative. Il s'agit de savoir qui va rafler la faveur. Et pour la rafler, il faut empêcher les autres de l'avoir, puisque c'est la faveur d'un maître unique. De plus, la plupart des Français de 1670 n'ont pas encore compris que la richesse est le produit d'une activité. Ils croient que c'est une donnée finie, comme les ressources naturelles, que c'est comme un gâteau et que on ne peut pas augmenter sa part sans diminuer celle des autres. Montaigne disait « Il ne se fait aucun profit qu'au dommage d'autrui ». Et malgré son conseiller Savary, Colbert tend encore à penser plus ou moins ça. Et cette erreur est confortée par le fait qu'en France, à l'époque, il est effectivement beaucoup plus rentable de prêter de l'argent à 25 et 30% à l'État que d'investir dans la production, c'est-à-dire de voler que d'investir. Et enfin, les Français, à partir de 1640, regardent la vie économique et sociale à la lumière de l'augustinisme, parce qu'on dit l'influence de Saint-Augustin, je croyais qu'il était mort. Mais ils sont allés le réveiller, ils sont allés relire Saint-Augustin, et ils l'ont lu d'une façon à laquelle n'avaient pas pensé Thomas d'Aquin ni François de Sales. Ils ont lu le négatif, la condamnation de l'homme et du monde chez Saint-Augustin. Mais malgré ça, se développe en réalité, en douce, en dessous, hein, sous la cour et sous, etc., en France aussi une forme de libéralisme. Oh, pas le libéralisme politique, bien sûr, sous l'absolutisme, pas le libéralisme économique sous Colbert, mais un libéralisme social. La cour, dit Madame de Motteville vers 1660, est un grand marché où il faut nécessairement aller trafiquer pour nos intérêts. Et comme tous les marchés, eh bien, chacun, dans ce marché-là, s'applique à fabriquer un produit qui se vende le mieux possible. Quel produit ? Eh bien, son propre personnage, en modelant son attitude sur l'attente de ceux qu'on veut séduire. Chacun, dit La Rochefoucauld, chacun affecte une mine et un extérieur pour paraître ce qu'il veut qu'on le croit. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Et voici comment, dès 1630, Faré, dans un livre intitulé « L'art de plaire à la cour », décrit la féroce concurrence du libéralisme sauvage dans les salons et à la cour de l'époque. Tout en un temps, il faut songer aux moyens de conserver ce que nous possédons, d'acquérir ce qui nous manque, de rendre vains les efforts de ceux qui nous contrarient, de reculer ceux qui sont devant nous, d'arrêter ceux qui nous suivent. Dans une cour composée de personnes qui aspirent toutes à une même chose, qui est la faveur du maître, le salut d'un chacun consiste à ruiner les autres. C'est clair. Dès 1670, c'est-à-dire un siècle avant Adam Smith, un certain Pierre Nicole,
qui est solitaire à Port-Royal, c'est-à-dire dans l'anti-France de l'époque, hostile à cette évolution-là, observe que l'avidité égoïste, qui est très condamnable en elle-même, est le moteur d'une production très intéressante, parce que c'est ça qui assure la prospérité, le confort et le bonheur terrestre. Il n'y a, dit-il, rien dont on ne tire de plus grand service que la cupidité, à condition, oui, c'est bien ça, de la régler par l'ordre politique et juridique. C'est le libéralisme réglé par l'ordre politique et juridique. À l'époque est dominée par la pensée de Saint-Augustin, qui insiste lourdement, fermement du moins, sur l'opposition entre l'amour de Dieu et l'amour de soi par lequel la créature se détourne de son créateur et s'idolâtre elle-même. Deux amours ont fait deux cités. Et oui, il dit deux cités, comme on dirions deux pays, deux sociétés, lui il pense avec les systèmes de l'époque. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de toi, la cité céleste. La cause première de la perdition de l'homme a été l'amour de soi. Or, en 1670 puis 1675, Pierre Nicole de Port-Royal, citadelle de l'hyper-augustinisme, lui, il hésite un peu à l'augustinisme, enfin, dit « Il n'y a rien dont on tire de plus grand service que la cupidité. C'est elle qui assure les travaux, les services dont chacun a besoin, quoiqu'il n'y ait rien de si opposé à la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, qui rapporte tout à Dieu, que l'amour propre qui rapporte tout à soi, il n'y a rien néanmoins de si semblable aux effets de la charité que ceux de l'amour propre éclairé qui sait connaître ses vrais intérêts. » Intérêt, effet, ce sont les termes que j'ai répétés tout au long de cet exposé. Traditionnellement, on regardait vers le ciel, vers les principes, et l'amour de soi était très mauvais. Maintenant, on regarde vers la vie terrestre et les effets de l'amour de soi sont très utiles. Comme dit Doma, un ami de Pascal, l'amour de soi, ce principe de tous les maux, est, dans l'état présent de la société, une cause dont elle tire une infinité de bons effets. Mauvais principes, bons effets. Et des tas de gens vont répéter ça à la fin du siècle. Qu'importe des motifs pourvu que les actions soient bonnes, c'est-à-dire utiles à la société. Raymond de Saint-Marc, 1711. Au XVIIIe siècle, va se confirmer cette inversion utilitariste. L'amour de soi est la seule base sur laquelle on puisse jeter les fondements d'une morale utile, Helvétius. C'est sur l'intérêt que la morale doit fonder solidement tous ses préceptes pour les rendre efficaces, le baron d'Holbach. En 1705, Bois-Guilbert définit encore mieux que Nicole le libéralisme économique. En 1705, il écrit « Bien que les gens ne cherchent que leur intérêt particulier, automatiquement, ils forment en même temps, quoi que ce soit à quoi ils songent le moins, le bien général, malgré qu'ils en aient, le bien général de qui, malgré qu'ils en aient, ils doivent toujours attendre leur utilité singulière. » Voilà une très bonne définition. Alors, reprenons le raisonnement. Il faut, pour satisfaire nos désirs et pour assurer notre confort et nos plaisirs, faire marcher la production, le commerce et la consommation. Et qu'est-ce qui les fait marcher ? L'intérêt, le désir. En 1705, un certain Mandeville, un londonien d'origine française, va beaucoup plus loin. Il met le comble au triomphe de l'économique sur l'éthique. Dans The Fable of the Bees, la fable des abeilles. Il nous dit, il y avait une ruche où tout marchait très bien, mais elles n'étaient jamais contentes. Elles se plaignaient toujours à Jupiter. « Maman, il m'a traité. Bébé, il... » Bon, alors Jupiter en a eu marre. Il les a toutes rendues vertueuses. Comme ça, tout ira très bien. Vertueuses, mais alors, il n'y a plus besoin de gendarmes, et il n'y a plus besoin de juges, et il n'y a plus besoin d'avocats, et il n'y a plus besoin de gardiens de prison. Vertueux, c'est-à-dire très sobre, alors la production s'effondre, le commerce aussi, le chômage devient épouvantable. C'est la ruine. Conclusion, je cite, « la cupidité, l'orgueil, l'envie et les autres défauts dont nous prétendons tous avoir honte sont le principal soutien d'une société prospère. Là où règne l'honnêteté, on sombre dans la pauvreté. Et une bonne politique doit consister, je cite, à convertir les vices privés en bienfaits publics. » Voilà comment les choses se sont passées. Et évidemment, tout cela a donné une émancipation de l'individu. Au début du XVIIe siècle, l'individu n'existe pas encore tout à fait tel que nous le connaissons. Si vous prenez des pièces de théâtre du tout début du XVIIe siècle, c'est marqué « le roi ». Ah bon, il s'appelle comment celui-là ? La reine, le messager. Ils n'ont pas d'individualité, vraiment. Moi, je suis moi parce que j'ai une identité et une conscience de moi-même qui me dit que j'étais le même il y a 40 ans. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, mais enfin, c'est ce que nous disons. Mais Montaigne dit, moi, Astor et moi, tantôt, nous sommes bien deux. Et les notions d'identité, de conscience de soi, n'ont été mises au point que par Locke en 1694. Et c'est ce même Locke qui est le théoricien de la propriété de soi et des fruits de son travail. Moi, je suis moi parce que j'ai une volonté autonome. Mais Honoré d'Urfé, en 1615, dans le grand roman du début du XVIIe siècle, écrit « quelque effort que je fisse contre ma volonté, si ne la pouvais-je déraciner de mon âme ?» Tiens, sa volonté est un truc qui le pousse et il ne réussit pas à s'en débarrasser. Oui, ce n'est pas notre volonté autonome. Pour nous, les individus existent d'abord et ensuite ils s'associent pour former une société. Ça aussi, c'est une notion qui n'apparaît qu'à la fin du XVIIe siècle. Auparavant, on considère que la communauté existe d'abord et elle produit des membres dont elle définit la place et la vie. Née à tel endroit, telle profession et cet endroit seront les vôtres toute votre vie. Cette émancipation de l'individu inquiète évidemment les chefs religieux. Bossuet, « Je vois un grand combat se préparer contre l'Église sous le nom de la philosophie cartésienne. Sous prétexte qu'il ne faut admettre que ce qu'on entend clairement, il s'introduit une liberté de juger qui fait que, sans égard à la tradition, on avance témérairement tout ce qu'on pense. » Et oui, ça aussi, ça a commencé à cette époque-là. Fénelon est d'accord avec son grand adversaire pour une fois. En notre temps, un chacun est son propre docteur, chacun décide, chacun prend parti pour les novateurs contre l'autorité de l'Église. Eh bien, je sens que je vais m'arrêter là. Il me restait un 11e point, mais qui apparaîtra peut-être dans la discussion. Comment articuler tout ce que je viens de dire, la conception du XVIIe siècle que je viens d'imposer, avec une conception traditionnelle, parlant de l'absolutisme, du classicisme, de la tragédie et tout ça. Un dernier mot quand même, nous croyons que le mot « égoïsme » désigne une tendance naturelle et éternelle de l'homme. Égoïsme, égoïste apparaissent en français, en anglais et en allemand au début du XVIIIe siècle et dans les pays latins qui ont un retard économique apparaissent encore plus tard. Merci.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique ?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous.
Les particules élémentaires.
Que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, une bipolaire Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines. Une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.